RFI, 2h à Paris, 1h en temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
Une influence chinoise présumée et insupportable aux yeux de Donald Trump, le président américain croit que Pékin tire les ficelles du fonctionnement du canal de Panama et menace d'en reprendre le contrôle par la force. Il a donc demandé à Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, de se rendre sur place pour mettre la pression sur le gouvernement panaméen. La voie du dialogue, peut-être, après l'escalade douanière entre les États-Unis d'un côté et de l'autre le Mexique et le Canada. Donald Trump toujours annonce cette nuit qu'il va discuter ce lundi matin avec Justin Trudeau, Premier ministre démissionnaire du Canada, et avec le gouvernement mexicain. Goma est grandement contrôlé par le Rwanda. Affirmation de Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des médias congolais, ce dimanche soir. De son côté, le Rwanda répond à la SADC en assurant que les forces rwandaises ne font que défendre leurs frontières et n'attaquent pas les civils. Et puis la Turquie, elle, se dit prête à accueillir certains détenus palestiniens libérés par Israël. Pour son premier déplacement à l'étranger, Marco Rubio sort la carte de la diplomatie agressive. Au Panama, le nouveau secrétaire d'État américain a averti que les États-Unis prendraient des mesures sur le pays d'Amérique centrale s'ils ne procèdent pas à des changements immédiats concernant le canal. Lors de sa rencontre avec le président José Raúl Mulino, le chef de la diplomatie américaine a répété que Donald Trump considérait une supposée influence chinoise sur ce passage navigable comme une menace. Une hypothèse qui désavantagerait selon lui les navires américains. Elisa Fellier.
Au cœur de l'argumentaire du président américain sur un supposé contrôle chinois, une entreprise hongkongaise chargée de la gestion des ports à l'entrée et à la sortie du canal.
Ça ne fait en rien un contrôle par la Chine. Ou alors il faut considérer que tous les terminaux de HPH, de Costco et d'autres entreprises chinoises dans le monde sont des points de force du Parti communiste et de la Chine. Mais c'est en aucun cas le cas, évidemment.
Paul Touré, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime, va plus loin. Il estime même que Pékin n'a aucun intérêt à user de son influence pour bloquer le canal par lequel transite 3% du commerce mondial.
Couper le canal de Panama serait couper un flux entre la Chine et les États-Unis dans les deux sens. Et aujourd'hui, le partenariat, il est commercial, il est comme ça. Pourquoi la Chine couperait une route qui finalement sert à approvisionner une partie de son soja et qui sert à expédier du Made in China qui est consommé en masse par les Américains?
Donald Trump assure que les navires américains payent plus cher pour traverser le canal. La réponse de Paul Touré.
Quand on met le nez dans la comptabilité du canal de Panama, on découvre 500 navires américains sur à peu près 10 000. Donc on a bien un problème, c'est qu'il n'y a ni compagnie américaine, ni bateau américain, ni pavillon américain.
En plus de vouloir contrer les intérêts économiques de la Chine au Panama, l'administration Trump souhaite avancer sur d'autres sujets comme l'expulsion des immigrés clandestins vers les pays d'Amérique latine et centrale.
Elisa Fellier. Et justement, le président panaméen José Raúl Mulino a proposé à Marco Rubio que les États-Unis utilisent un aéroport panaméen pour expulser des migrants illégaux et ensuite les répartir dans les pays d'Amérique du Sud. Donald Trump qui promet de discuter ce lundi matin avec le Mexique et le Canada, deux pays qui ont annoncé des représailles après l'annonce de droits de douane sur leurs produits exportés aux États-Unis. Le président américain qui a prévenu de conséquences potentielles sur l'économie américaine. La mise en place de ces taxes feront souffrir peut-être ses concitoyens, mais c'est le prix à payer afin de rendre sa grandeur à l'Amérique, a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, le locataire de la Maison Blanche qui précise par ailleurs cette nuit que des droits de douane sur les pays des produits européens sont prévus pour très bientôt. L'Union européenne a promis ce dimanche de riposter fermement si cela venait à se confirmer. Une reconnaissance officielle une semaine après l'offensive ce dimanche soir dans un entretien sur la chaîne TV5 Monde. Patrick Muyaya, ministre congolais de la communication et des médias, a reconnu que Goma était en grande partie contrôlée par le Rwanda dans l'est de la RDC. Les forces rwandaises et le M23 avaient commencé l'attaque contre la capitale provinciale du Nord Kivu dimanche dernier. Des attaques qui ont inquiété les membres de la SADC, mais Kigali a répondu à la communauté de développement de l'Afrique australe en assurant que les FDR défendaient les frontières du Rwanda et n'attaquaient pas les civils. Autre inquiétude portée cette fois par le président burundais Évariste Ndayishimiye, qui a dénoncé vendredi les avancées du Rwanda en RDC et les risques de débordement dans toute la région. Écoutez la réponse du porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda.
Il parle d'une guerre qui serait régionalisée, mais il oublie de dire qu'il participe déjà à la guerre aux côtés de FARDC, et de Wazalendo et de FDLR. Le Burundi est déjà en guerre. C'est son droit le plus absolu de tenir ce genre de propos. Mais le Rwanda n'a jamais menacé le Burundi. Le Rwanda menacerait le Burundi, pourquoi ? C'est toujours des accusations qui viennent sans preuve, sans fondement. Cela ne facilite pas la résolution de l'autre côté de la frontière. En tout cas, le Rwanda n'a pas l'intention d'aller attaquer qui que ce soit dans la région. Ça, c'est clair, c'est sa position. Le Rwanda devra se défendre si c'est nécessaire, mais le Rwanda n'a pas attaqué qui que ce soit.
Alain Mukuralinda, les scènes de destruction de Gaza transposées dans le nord de la Cisjordanie occupée depuis le 14 janvier dernier. 50 personnes ont été abattues sur ce territoire. Un bilan communiqué ce dimanche par l'armée israélienne qui mène une opération militaire de grande ampleur. Ce dimanche, une vingtaine de bâtiments de la ville de Jénine ont été démolis car ils auraient abrité des infrastructures terroristes, toujours selon les forces de l'État hébreu. L'autorité palestinienne a condamné la destruction brutale de grands quartiers du camp de Jénine. À Gaza, en parallèle, la trêve, elle, tient toujours. Samedi avait d'ailleurs lieu le quatrième échange de prisonniers entre Israël et le Hamas. Dans le cadre de cet accord, 3 otages israéliens avaient été libérés en échange de 182 détenus palestiniens. D'autres opérations de ce type sont prévues et certains prisonniers palestiniens relâchés pourraient être accueillis par la Turquie. C'est ce qu'a affirmé dimanche à Doha, au Qatar, le ministre turc des Affaires étrangères. Hakan Fidan n'a pas fourni de détails sur les conditions de cet accueil. Il a en revanche mentionné le cas du soldat israélien Gilad Shalit. Sa libération en 2011, après plus de 5 ans de détention en territoire palestinien, s'était effectuée en échange de la libération par Israël de plus d'un millier de prisonniers palestiniens et certains avaient été accueillis en Turquie. On écoute le ministre turc.
Depuis le début, nous soutenons l'accord de cessez-le-feu. L'une des conditions de l'accord conclu entre les parties était que certains prisonniers palestiniens, après leur libération, ne restent pas en territoire palestinien, comme cela avait été le cas pour la libération de Gilad Shalit. À l'époque, on nous avait déjà demandé d'accueillir certains Palestiniens et nous avions accepté. Cette fois encore, notre président a déclaré que nous étions évidemment prêts, avec d'autres pays, à accueillir certains Palestiniens libérés afin de soutenir l'accord. La Turquie, avec d'autres pays, fera ce qui lui incombe à cet égard pour que l'accord de cessez-le-feu puisse être appliqué et rester en vigueur.
Hakan Fidan, un lent glissement vers une répression à la russe en Géorgie. 2 meneurs de l'opposition ont été arrêtés lors d'une manifestation anti-gouvernementale ce dimanche à Tbilissi. L'un d'entre eux est d'ailleurs un ancien maire de la capitale. L'autre est un élu d'un parti pro-européen et a ensuite été relâché. Ce mouvement de contestation avait commencé fin octobre lorsque le parti Rêve géorgien avait revendiqué sa victoire aux législatives. Un scrutin truqué avait accusé l'opposition. Celle-ci considère que le gouvernement actuel se tourne de plus en plus vers Moscou. Et puis ce serait un sacrilège pour les hindous, un sacrilège causé par la pollution. À quelques jours des élections de l'Assemblée de Delhi en Inde, les accusations fusent entre les deux partis opposés. D'un côté, le BJP de Narendra Modi, qui tente de s'emparer de la capitale depuis 27 ans, et l'AAP, l'actuel parti au pouvoir. Son chef, Arvind Kejriwal, accuse le gouvernement central d'avoir délibérément empoisonné les eaux de la Yamuna, une rivière sacrée. Léa Ojal.
Buvez si vous l'osez, a exhorté Arvind Kejriwal, l'actuel ministre en chef de Delhi, au gouvernement de l'Haryana, dirigé par le BJP. Il accuse le parti de Narendra Modi d'avoir tenté un génocide en mélangeant du poison dans l'eau de la Yamuna. En réponse, le BJP a nié et a même bu l'eau de la rivière pour démontrer qu'elle était sans danger. Preuve que la pollution monstre qui touche la capitale trouve enfin sa place dans les débats politiques. De son côté, le parti de Modi l'assure, l'environnement est l'enjeu numéro un de leur campagne. Comme l'explique Pravin Shankar Kapoor, il est l'attaché de presse du parti.
Nous travaillons dur pour fournir une bonne qualité de l'air pour les habitants de Delhi. Nous mettons tous nos efforts pour nettoyer la rivière Yamuna, si sacrée pour les hindous.
À ce stade, aucune étude scientifique démontre l'empoisonnement des eaux de la Yamuna. Le 5 février, environ 15 millions d'électeurs sont appelés à voter pour élire les 70 représentants de l'Assemblée de Delhi. C'est là que se jouent les décisions sur la gestion de l'eau, une préoccupation capitale pour les 30 millions d'habitants de Delhi. Léa Ojal, RFI, New Delhi.
Merci d'avoir écouté cette édition sur Radio France Internationale, 2h10 à Paris, 1h10 temps universel.